Ils sont partis tôt. La journée promet d'être sublime, comme savent parfois l'être ces latitudes tourmentées. Le ciel d'un bleu profond, liquide, de cette transparence particulière au 50e sud. Pas une ride à la surface. Jason, leur bateau, semble en apesanteur sur un tapis d'eau sombre. Les albatros, en panne de vent, pédalent doucement autour de la coque. Isabelle Autissier est ce soir notre invitée, mais avant de partir en haute mer, eh bien nous allons commencer la traversée avec Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Call him my lover.
Commençons par les nuages, Isabelle Autissier. Comment faut-il les regarder à partir d'un bateau ? Mieux vaut-il être allongé ou debout ?
Alors en général, quand même, on les regarde debout parce qu'en général, on est actif sur un bateau. On est voilà. Ça peut arriver qu'on soit allongé sur le pont, mais c'est quand même pas souvent. Par contre, on les regarde et on passe beaucoup de temps à les regarder parce qu'ils vous racontent une histoire. Ils vous racontent ce qui est en train de se passer, mais aussi ce qui va se passer. Et selon la vitesse de défilement, selon leur forme, selon les endroits où on se trouve, bien sûr, la science météorologique qui nous aide pour décrypter ça et puis en faire un peu nos amis finalement.
Que vous est-il arrivé quand vous aviez 12 ans et que vous étiez dans un petit navire en partance vers l'Irlande ?
Ah, mais ça, c'est des beaux souvenirs parce que tout d'un coup, on découvre ça. On découvre, d'abord, c'était ma première nuit en mer. Donc, c'est aussi tout d'un coup la façon de sentir que quand on est en mer, la nuit, on a beaucoup de sensations qui restent. On entend des choses, on sent des choses, on a le mouvement de son corps qui vous raconte une histoire. Et moi, j'ai tout de suite accroché à ça. Et voilà, je me suis dit que la mer, c'était non seulement des connaissances pour apprendre à naviguer, mais c'était toutes ces émotions. Et au fond, je navigue pour les deux. Je navigue parce que j'aime comprendre la mer, mais je navigue parce que j'aime aussi cette sensualité que la mer nous donne.
L'amour de la mer a commencé par le père.
Oui, on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas ce qu'en dirait un psychanalyste. Non, on était une famille qui naviguait, surtout oui, mon papa adorait faire du bateau. Et il emmenait ses filles, on était une tribu de filles. Et puis on est deux dans la famille à vraiment avoir accroché. Et là, tous les étés, on les passait. Donc il y avait lui, bien sûr, il y avait ses amis. Et on partait à l'époque, c'était des grands voyages. On allait jusqu'en Irlande, jusqu'en Écosse. Et c'était l'aventure.
Les yeux de la mer.
Alors ça c'est une sorte de poésie que j'ai réutilisée d'ailleurs dans un de mes romans. C'est que c'est vrai que par moment, quand on regarde l'eau, que tout ça est mouvant, qu'il y a des reflets, qu'il y a, on voit des choses, on imagine des choses, et on peut imaginer que il y a des visages qui sont un peu cachés dans le fond, qu'il y a, voilà, que alors je ne sais pas si ce sont les dieux et les déesses de la mer, mais en tout cas que voilà, qu'il y a une forme de correspondance et on peut voir des visages et on peut voir des yeux qui vous regardent.
Le mal de mer.
Ah ça, tous les marins, pratiquement tous les marins le connaissent. C'est vrai que forcément les mouvements. Qui ne sont pas ceux, évidemment, de la Terre, font qu'il y a une désynchronisation pour le cerveau entre les messages qui viennent des yeux, qui viennent des muscles et qui viennent de l'oreille. Et à terre, tout ça est bien agencé pour faire que vous avez votre équilibre et que vous marchez droit. Et quand tout d'un coup, le plancher, en gros, sur lequel vous marchez se met à bouger, bah, vous êtes déstabilisé, votre cerveau ne perçoit plus les bons signaux et ça provoque pas mal de désagréments en général. Alors, finalement, on s'y habitue. Moi, quand j'étais petite, j'étais très malade, mais vous savez comme sont les gosses, hein, même pas mal. Et donc, j'ai continué à naviguer. Et puis, petit à petit, on s'habitue, on s'y fait. Et aujourd'hui, je l'ai plus. Et je pense que, bon, je peux peut-être l'avoir dans des circonstances exceptionnelles. Mais enfin, en gros, quand même, je suis maintenant assez aguerrie.
Les bateaux ont-ils un sexe, Isabelle Autissier ?
Alors, moi, je trouve... Mais d'abord, sans être ni fétichiste, ni... voilà, mais forcément, les bateaux ont une forme de personnalité. Les bateaux ne réagissent pas pareil. Les marins me comprendront, ne prennent pas la mer pareil. Alors, vous allez me dire que l'architecte naval va me dire que c'est dû aux formes, aux étraves, ou à tout un tas de choses techniques. Mais de fait, les mouvements des bateaux ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, j'aime bien, et ça m'a toujours amusé, de dire que j'ai eu des bateaux garçons et des bateaux filles. En ce moment, j'ai un bateau fille. D'ailleurs, c'est une coïncidence, mais elle s'appelle Ada, qui est un prénom féminin. Et effectivement, ce bateau, je trouve une façon assez féminine d'utiliser l'élément, de s'y glisser comme ça. Et donc tout ça est évidemment de l'histoire qu'on se raconte, hein, du jeu en fait.
Vous donnez des conseils
les Anglais disent « she » quand ils parlent d'un bateau. Donc pour les Anglais, un bateau est un objet féminin.
Oui, donc, mais vous, vous avez eu des bateaux aussi masculins.
Oui, voilà.
Et vous les avez trompés. Ils se sont vengés.
Ah, alors ça, c'est une histoire que j'aime bien. Mais non, mais vous savez, on adore. Puis moi, j'adore raconter les histoires. En fait, il y a un moment, j'ai eu deux bateaux.
Bah, c'est déjà dangereux d'avoir deux bateaux. Voilà. C'est comme deux maris.
Mais un bateau dans lequel je vivais et un bateau avec lequel je faisais de la course. Et quand je suis partie faire de la course, eh bien, le bateau dans lequel je vivais a coulé au port tout seul par beau temps. Et donc, j'en ai conclu qu'il m'avait fait un chagrin d'amour.
Ben, c'était pas un hasard.
Eh ben, je ne pense pas, non, forcément. Le bateau était trop malheureux que je sois partie avec un autre. C'est ça.
Êtes-vous superstitieuse?
Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis avant tout scientifique. Donc, même si, comme ça, on s'amuse de se raconter des histoires de bateaux. Mais non, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a été d'abord dans une famille de scientifiques. Mon père était aussi ingénieur et j'ai fait des études moi-même d'ingénieur. Donc, vous pouvez me peindre le bateau en vert, vous pouvez me faire partir un vendredi, vous pouvez me parler de lapins à bord, ça me fera rien.
Vous êtes-vous toujours repéré en haute mer?
Alors, on se repère évidemment. On a maintenant, depuis très longtemps, on a des techniques pour se repérer. Moi, je suis de la génération où on a commencé en se repérant avec un sextant, c'est-à-dire avec le soleil et parfois les étoiles. Puis, comme tout le monde, je suis passée au GPS parce que c'est bien pratique. Maintenant, ce que je sais, c'est que les mers différentes du globe sont des paysages différents. Selon que vous êtes dans l'Alizé, que vous êtes dans les 50e rugissant, que vous êtes dans le Grand Nord, que vous êtes, c'est pas la même atmosphère, c'est pas les mêmes nuages, c'est pas les mêmes vagues, ça, y a pas les mêmes odeurs, y a pas.
Mais vous dites le mot paysage.
Oui, bien sûr.
C'est aussi riche qu'un paysage au sens le plus élémentaire du terme.
Ah, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui définit un paysage? C'est que vous voyez pas les mêmes choses, mais aussi, par exemple, ça va sentir la campagne, ou ça va sentir les pots d'échappement, ou ça va, donc il y a tout ça, on le retrouve.
La mer a beaucoup d'odeurs différentes.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des tas d'odeurs en mer et les odeurs des 50e sont pas les mêmes que celles de l'Alizé où il fait beau et chaud. Il y a des odeurs plus d'évaporation, des odeurs plus iodées, plus fortes. Et puis souvent la terre sent avant. Souvent on sent la terre avant de la voir.
Comme du temps des premières expéditions.
Alors les
navigateurs,
les navigateurs avant étaient bien meilleurs que nous parce qu'ils étaient beaucoup plus observateurs. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Donc, ils regardaient les oiseaux, par exemple, et le vol des oiseaux, c'était une source d'enseignement énorme. Moi, je suis tout juste capable de savoir que telle espèce niche à terre, et que donc, quand je la vois, je suis arrêtée près d'une terre, mais je suis pas capable de décrypter plus que ça. Alors que eux avaient évidemment des méthodes, les meilleurs dans tout ça étaient évidemment les Polynésiens, qui pouvaient goûter l'eau, et en goûtant l'eau, ils savaient où ils étaient, quoi. Donc, ça, évidemment, c'est des choses qu'on a totalement, totalement perdues.
Je vous propose d'écouter quelqu'un que nous admirons beaucoup. C'était la première femme océanographe de France et photographe, Anita Conti, à propos de ses expériences en mer. C'est une archivina du 18 décembre 1953.
Je ne les compte plus. Il y en aurait trop. Je crois que je compte le nom des navires, les noms des navires sur lesquels je suis passée tour à tour.
Et quelle est la plus grande période de temps en mer pour
que
vous?
J'ai passé d'un seul trait.
Oui.
Eh bien, je crois que c'est une campagne entre Casablanca et Dakar, parce que je suis passée sur plusieurs navires, et là, je suis restée 8 mois sans toucher terre. Mais c'était en mer relativement chaude, tandis que la dernière, ce fut 140 jours entre Terre-Neuve, Groenland et Labrador.
Vous êtes partie en juillet, vous êtes rentrée?
Un peu avant Noël. La vie à bord, c'est la vie d'usine, mais d'une usine qui aurait une passion, réussir, c'est-à-dire enfournée dans une cale, qui est une gueule insatiable, une gueule ouverte tout le temps, nuit et jour, enfournée dans cette cale tout ce qu'on peut, tout ce que le chalut racle, en draguant derrière le navire les fonds les plus profonds, jusqu'à 400 mètres.
Pratiquement, les hommes dorment combien de temps par jour?
Ah, ils dorment toujours 6 heures sur 24, mais par roulement irrégulier.
C'est-à-dire, ils travaillent 12 heures, ils dorment 6.
Exactement. Vous avez compris le système. Mais alors, ce qui fait que jamais les hommes ne se lèvent à la même heure, un jour et un autre jour, il y a toujours 6 heures de décalage. On se lève à minuit, le lendemain, on se lève à 6 heures du matin, le surlendemain à 12 heures, le surlendemain à 18 heures, et c'est ainsi de suite.
Grande dame. très grande dame de la mer, Anita Conti, la première océanographe femme. Et on lui a pas fait la vie facile. Mais aussi, il faut vraiment le souligner, la première à avoir compris qu'il y avait un problème autour de la surpêche, autour de notre façon de travailler, d'exploiter l'océan et les ressources marines. Et toute la deuxième partie de sa vie, elle a essayé déjà d'alerter. Et Dieu sait si dans les années 60, c'était 60-70, c'était pas facile.
Vous avez emprunté la route d'Anita Conti.
Oui.
Dans le double sens du terme, à la fois comme aventurière de la mer et aussi comme ambassadrice de l'écologie.
Oui, et puis au départ comme ingénieure à Lyotte, puisque moi j'ai quand même eu la chance d'arriver après elle à un moment où on pouvait faire ce genre d'études, où une jeune femme pouvait faire ce genre d'études.
Vous n'étiez pas nombreuses.
Non, on n'était pas très nombreuses, et des ingénieurs à Lyotte, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et quand j'y étais, c'est vrai que de toute façon le milieu de la pêche n'est pas du tout un milieu ouvert aux femmes, même si ça peut bien se passer. Hein. Donc c'est vrai que déjà, pour moi, c'était quelqu'un de très important. Et puis, effectivement, après les routes maritimes, et je partage avec elle voilà, cette tendresse pour les gens de mer et cet intérêt pour ce qu'ils font à tous les niveaux, quels que soient les gens de mer. Et puis, bien sûr, les chemins de l'écologie qui, aujourd'hui, là aussi, sont beaucoup plus ouverts et construits, mais elle était vraiment pionnière.
Anita Conti dénonçait déjà la surexploitation et la surmercantilisation de certaines routes maritimes. Elle a prêché dans le désert. Aujourd'hui, vous avez des responsabilités à WWF. Et vous êtes cette ambassadrice qui allait dans tous les colloques internationaux pour essayer de défendre les causes, parce qu'elles sont différentes, et on y reviendra tout au long de cette émission, les causes de la mer. On a l'impression que l'opinion publique est extrêmement sensible à ce genre de combat, mais qu'en même temps, les décisions politiques sont extrêmement lentes, voire inexistantes. Pourquoi,
alors,
selon
pas
vous?
Pas tout à fait inexistantes, mais beaucoup trop lentes par rapport à l'ampleur des phénomènes, à la gravité des phénomènes et même à leur accélération. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi dans nos sociétés des forces conservatrices qui ne veulent pas changer parce qu'au fond, le modèle actuel leur convient bien. Donc, ces gens-là, il faut de la force et de la puissance pour les obliger à ouvrir les yeux et à changer leur méthode. Et donc, les gouvernements, ma foi, souvent, se laissent un peu influencer par les uns et par les autres et n'ont pas toujours cette clairvoyance ni cette façon de tenir un combat et de tenir un objectif. Alors que normalement, pour moi, le métier politique, qui est un très beau métier, doit être justement celui d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut emmener une société. De l'y emmener. Alors, bien sûr, les méthodes sont pas, il s'agit pas d'employer des méthodes violentes et des méthodes un peu musclées, mais en même temps, il faut avoir des vrais objectifs et des vrais marqueurs et expliquer où est-ce qu'on va et comment on y va. Et je pense que, je sais pas si on le ramène à la mer sur la question du plastique, par exemple. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est vraiment extrêmement mauvaise et le plastique est en train de détruire une partie de la vie marine et donc de détruire aussi ce qui fait nos ressources marines. Je crois que, alors on voit que au sein de l'Union européenne, il commence à se passer des choses, que en France, il commence à se passer des choses, mais voilà, ça va pas assez vite, quoi.
Que s'est-il passé pour vous, Isabelle Autissier, au milieu des îles Berthelot? Pouvez-vous nous décrire?
Oh, ça, c'est un bel endroit. C'est donc en Antarctique, en péninsule antarctique. Et là, on est vraiment dans un territoire encore de no man's land, puisque même les cartes sont fausses, ou c'est juste marqué que c'est pas répertorié et que donc on va un petit peu au hasard, comme ça.
Donc ça veut dire qu'il y a encore des cartes qu'il y a encore des endroits au monde qui ne sont pas cartographiés.
Oui, ou très très mal, ou de façon très fausse, bien sûr. Et ça fait partie de l'aventure.
Il y a qu'en mer.
Je sais pas, peut-être qu'à terre, dans certaines montagnes ou dans certains endroits vraiment perdus, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, en mer et en particulier dans ces extrêmes nord et sud, dans ces arctiques et antarctiques, comme il y a peu de gens qui y vont et que ça coûte très cher de faire des cartes, bah en fait, on les fait pas ou on les fait approximativement et puis chacun se débrouille. Mais bon, après, moi, je l'assume et c'est à moi en tant que marin de faire ce qu'il faut pour être quand même en sécurité, c'est-à-dire de pas me précipiter si je connais pas bien la côte, d'envoyer peut-être d'abord le petit Zodiac pour aller sonder, pour aller voir. Enfin voilà, tout ça, finalement, moi je trouve ça bien, ça rajoute même un peu de piment à la navigation.
Elles étaient dans le brouillard, les îles Berthelot ?
Ah ben, il y a toujours... oui, il y a toujours pas mal de brouillard, et c'est ce qui est assez magnifique dans ces cas-là, c'est qu'il y a des effets de lumière qui font qu'on a l'impression que les îles flottent comme si elles étaient sur un coussin de brouillard. En fait, c'est des réverbérations qui se forment entre la mer et l'atmosphère, et donc on est vraiment dans une espèce de conte de fées, quoi. On est
dans l'inconnu du monde.
Oui, complètement. Enfin, on a le sentiment d'être, et je trouve qu'évidemment ça vous ramène à votre mesure de petit terrien, finalement quand même tout petit sur cette planète, puisque même avec notre grande puissance technique, intellectuelle et d'organisation, on peut encore être, pas savoir où on est, quoi, finalement. Et ça, moi, quelque part, moi, je trouve ça encore magique.
Pourquoi avez-vous été bouleversé par un iceberg qui arrivait vers vous ?
Parce que c'est bouleversant, parce que c'est beau, c'est incroyablement beau. Cette énorme masse de glace qui est à la fois extrêmement forte, bien plus forte que vous, c'est parfois des millions de tonnes de glace, donc c'est colossal. Et en même temps, c'est d'une fragilité incroyable puisque ça va fondre. Et que cet iceberg que je vois est en train de mourir sous mes yeux, puisque petit à petit, l'eau, qui est un petit peu moins froide que lui, est en train de le grignoter par au-dessous, et puis tout d'un coup, un jour, il va basculer, il va se fracturer, et puis voilà, puis un jour, il ne sera plus. Et en même temps, cet iceberg, c'est peut-être de la glace qui a 100 000 ans, qui a 500 000 ans. Donc, il est devant mes yeux le témoignage de l'histoire de la planète, et il est en même temps le témoignage, de la fonte des glaces, qui est naturelle, normale, qui évidemment aujourd'hui nous pose un problème parce que elle est excessive et elle se produit de manière accélérée. Mais c'est vrai que voilà, tout d'un coup, on se sent, je trouve qu'on se sent habitante du monde, citoyenne du monde, parce que on a une petite partie de l'histoire de ce monde tout d'un coup sous les yeux.
Vous aimez transmettre, Isabelle Autissier, vous savez très bien le faire sous deux formes, en tout cas, à la fois par des romans et aussi par des essais sur la mer. Dans un de ces essais, vous racontez que dans cette région que vous venez d'évoquer, et qu'on dirait complètement perdue, où seuls des gens comme vous peuvent accéder, eh bien l'argent s'est installé. Et vous racontez l'histoire absolument incroyable. Je vous laisse raconter.
Ah, alors je ne sais pas à laquelle vous faites allusion.
D'un énorme magnat russe là qui est arrivé.
Oui,
qu'est-ce
sûr.
Que c'est ?
Non, mais ça, c'est.
On a l'impression que le monde a été gangréné par.
Mais si vous voulez ça.
La
ça,
richesse, y ça, compris les recoins du monde les plus lointains.
Aujourd'hui, les gens fortunés cherchent comme toujours à faire ce que les autres ne font pas. Hein. C'est un marqueur.
Je croyais qu'ils voulaient aller dans la Lune, mais pas seulement.
Pas seulement. Il y a encore des coins sur Terre qui restent justement des coins très peu fréquentés, compliqués d'accès, etc. Et donc, c'est attirant pour une certaine frange de gens qui ont les moyens de se payer des grands bateaux, etc. Donc, effectivement, en Antarctique, à un moment donné, dans le mauvais temps, on a croisé ce grand navire très rutilant comme ça et qui faisait, je sais pas, au moins 60 mètres de long, 60 ou 80 mètres de long, dans lequel il y avait un magnat russe avec sa jeune fiancée qui était un top modèle de je ne sais où. Et puis ils avaient comme ça 20 ou 30 petits sbires qui, donc évidemment un capitaine, un équipage et puis des gens qui s'occupaient. Et c'était très étrange parce que c'est tellement la civilisation commerciale, civilisation de la frime quand même un peu, qui se retrouvait dans cet endroit qui est tout le contraire, que c'était évidemment assez saisissant.
Les femmes aiment la mer et quand elles l'aiment, elles savent naviguer, mais elles savent aussi écrire. Je vous propose d'écouter Catherine Poulain à propos des pêches et de la mer. Catherine Poulain, c'est l'auteur, entre autres, de ce livre magnifique,
superbe.
Manifestement vous l'avez lu, qui s'intitule Le Grand Marin. Écoutez-la.
La pêche la plus dure, c'est la pêche au crabe. Mais toutes les pêches peuvent être extrêmement dures. Et toutes les pêches peuvent être extrêmement dangereuse aussi. Mais le crabe, oui, c'est la plus violente, dirons-nous. D'abord, c'est sur la mer de Bering, qui est une mer, autant elle peut être ennuyeuse, et alors on l'appelle la Bering Sea, la mer de l'ennui. Et autant c'est la Bering Sea, la mer qui est de toutes les fureurs, toutes les tempêtes, toutes les... Et puis le travail est très dur, parce que ces casiers sont énormes. Quand il y a de la gîte, c'est une force aveugle et redoutable lorsque il balaye le pont à la moindre faute du gars qui s'occupe des hydrauliques et qui remonte donc les casiers. La moindre petite erreur, le casier peut frapper quelqu'un et donc le tuer, l'écraser. Le travail est aussi extrêmement soutenu et donc l'épuisement. Avec l'épuisement, il y a toujours un moment où le corps fatigué fait une erreur. Il y a ceux qui se font emporter par-dessus bord, il y a... Voilà.
C'est si dur que cela, le milieu de la mer, Isabelle Autissier.
Alors, le milieu de la pêche est un milieu difficile. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle vous raconte ça avec une petite voix toute tranquille et toute calme. Et... Alors que c'est vrai que...
Mais elle est toute gracile et elle a travaillé en mer.
Elle a fait ce métier pendant des années et des années, donc elle le connaît très bien. Et puis c'est vrai que la mer de Bering est une mer particulièrement difficile.
Mais alors attendez, elle dit ennuyeuse. C'est vrai qu'il y a des mers ennuyeuses.
Et en fait, je pense qu'elle dit ça du point de vue de la pêche. Et que on va pas forcément en mer pour les mêmes raisons, et que un pêcheur qui va en mer et qui est par exemple qui fait un transit pour aller sur les lieux de pêche ou qui pêche et puis ça pêche pas grand chose, et peut-être que pour lui c'est ennuyeux. Mais par contre, pour quelqu'un qui y va juste pour se remplir les yeux de nuages et de mer, c'est pas ennuyeux. Donc voilà, je pense que c'est ça. Mais après, oui, elle a raison. Le métier de marin pêcheur est un métier, même en France aussi, physique, dangereux, difficile. Et en même temps, c'est un métier où les gens disent que les pêcheurs sont vraiment ont le sens d'une forme de liberté. On pourrait se dire, mais c'est un esclavage. Parfois, sur les grands bateaux, ils travaillent 20 heures sur 24. Mais en fait, eux le vivent comme la liberté.
Parlons de la pêche industrielle et des poissons, justement, qui sont disponibles sur nos étals en France. Vous citez des chiffres effrayants, Isabelle Autissier. Pêche qu'on croit faite par les pêcheurs, par les marins pêcheurs que nous aimons tant et que nous admirons tant, en fait, elle est ultra minoritaire. C'est la pêche industrielle qui s'est emparée de toutes les mers.
Oui, puisqu'on considère qu'en moyenne, sur la planète, 90% des poissons sont pêchés par 10% des pêcheurs. Donc voilà, donc ça dit tout. Donc on a effectivement d'un côté une pêche extrêmement capitalisée, avec des grands bateaux, avec des investissements énormes, hein, parce que c'est des bateaux très technologiques, donc qui ont des capacités de pêche énormes, qui sont capables d'aller pêcher le dernier poisson dans la mer s'il faut, quoi, il n'y a pas de problème.
Rien ne leur échappe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des moyens de détection extraordinaires, ils ont des moyens de pêche extraordinaires, et c'est bien ça le problème, puisqu'ils ont des moyens de pêche qui excèdent ce que la nature peut mettre à notre disposition tous les ans. Donc du coup, au lieu de se contenter, entre guillemets, des intérêts, pour reprendre une image un peu facile, on tape dans le capital et donc on voit les ressources, puisqu'aujourd'hui on considère que pratiquement 80% des espèces consommées, des espèces commerciales, sont surexploitées ou à la limite de la surexploitation. Donc on est vraiment dans des niveaux de destruction de la ressource marine qui sont extrêmement élevés. Et d'un autre côté, on a des petits pêcheurs, en général locaux, côtiers, avec des tout petits bateaux, qui eux souvent vivent de ça, donc nourrissent leur famille, vendent un petit peu, qui se retrouvent avec des ressources qui diminuent aussi. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, d'ailleurs, ils ne font pas des activités de pêche qui sont aussi nocives, mais en tout cas, eux, ils en ont vraiment besoin pour survivre. Et quand ils ne survivent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur baluchon et ils vont en ville ou ils vont ailleurs. Donc, je pense que voilà, on voit très bien le rapport entre détruire les équilibres de la vie et puis les équilibres de la vie des êtres humains. Et donc les répercussions en termes économiques, en termes sociaux, en termes, j'allais dire, même de paix d'une manière générale, puisque la destruction de l'environnement, malheureusement, arrive à des situations de conflit.
Vous n'êtes pas une donneuse de leçons, Isabelle Autissier, et vous vous appliquez à vous-même des préconisations que vous pouvez penser et transmettre. Alors parlons de l'instrument principal d'un bateau, c'est-à-dire de la voile. Une voile, ça vieillit. J'ai appris ça en vous lisant. Il y a des jeunes voiles et il y a des vieilles voiles.
Et oui, parce qu'une voile s'use, hein, parce qu'elle se déforme avec le vent, parce que les ultraviolets du soleil vont l'abîmer. Et donc, au bout d'un moment, elle est toute déformée, puis elle a tendance à se déchirer. Donc voilà. Donc elle. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui les récupèrent et qui en refont autre chose. Et il y a, en particulier en France, mais un peu partout maintenant, souvent des artisans, même des artisans d'art, qui en font des sacs à main, des objets. Et moi, je trouve ça sympa, parce que c'est quand même une façon, même si cette voile n'a plus de destin de voile, de ne pas la mettre à la poubelle, mais peut-être de lui redonner un deuxième souffle.
Mais c'est super d'avoir un sac à dos qui permette de nous envoler.
Mais oui,
grâce à vos voiles.
Voilà, j'ai un petit sac à dos en Kevlar. En plus, c'est des tissus assez jolis, les tissus des voiles de course. Donc voilà, c'est très chic en plus.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Isabelle Autissier. Anne-Sophie Von Otter va interpréter Aux solitudes d'Henri Purcell. De quoi nous envoler.
My sweetest charms, poor solitude, oh solitude, my sweetest charms, places devoted. Tumult and from noise, how ye my restless thoughts divide. Oh, solitude, oh, solitude, my sweetest, sweetest joy. The pains to stop.
Quelle pureté, quelle magnifique voix. C'est vrai que moi voilà, je trouve qu'il y a des voix et des musiques pour chaque état de mer. Et pour moi, ça c'est vraiment, on parlait tout à l'heure du brouillard, de la brume, et je trouve que c'est une voix qui est parfaitement avec ce genre d'ambiance.
Je pensais que c'était peut-être aussi un clin d'œil par vous, de vous qui êtes la championne du monde en solitaire. cette sensation de solitude, vous l'avez vraiment éprouvée? Est-on vraiment seul en mer?
Ah oui, on est vraiment seul, oui. Mais j'aime bien ce qu'elle dit quand elle dit « my sweetest choice ». Voilà, je crois que la solitude choisie, elle est magnifique, bien sûr. C'est ce que j'ai eu la chance de vivre. Oui, on est seul et on est loin. Et donc, on est coupé complètement des autres êtres humains. On n'est pas simplement seul parce qu'on est enfermé dans une pièce ou comme on est parce qu'on va faire un petit tour. Il y a des moments où le premier être humain il est à 10 000 kilomètres. Donc où il faut 15 jours pour qu'il arrive avec un bateau éventuellement. Donc du coup c'est vrai que ça donne une autre dimension au rapport humain tout simplement et que paradoxalement je trouve que ça vous rapproche des autres. Parce que justement, ça donne du poids à la relation humaine, parce qu'on s'aperçoit que coupé des autres, on est en quelque sorte coupé de nos racines, et qu'on a besoin pour exister, pour être heureux, on a besoin d'échanger. Alors, un peu de solitude, c'est magnifique, parce qu'on exprime autre chose, on rentre un peu en soi-même, mais en même temps, pour les marins, l'arrivée, c'est aussi un très grand moment, parce que c'est le moment où toute cette solitude produit quelque chose de nouveau avec les autres.
Il est aussi marin, il est aussi écrivain, vous l'avez accepté dans une de vos équipées à travers le monde, je veux parler d'Éric Orsenna, écoutez ce qu'il dit de vous. Je rappelle que tous les deux, vous avez co-signé un très beau livre qui s'intitule « Salut au Grand Sud », mais manifestement, l'amitié perdure encore entre vous. Écoutez Éric Orsenna.
Elle avait un projet très ambitieux, sur un très gros bateau, un cargo, de réunir un certain nombre de gens pour saluer l'Antarctique, rendre hommage à l'Antarctique et faire une sorte d'opéra de l'Antarctique. Elle m'avait proposé de venir. Donc évidemment, depuis toujours, j'avais envie d'aller au sud du Cap Horn et en Antarctique. Et évidemment, avec Isabelle Autissier, qui est une légende quand on est un petit navigateur comme moi, depuis le plus jeune âge, mais quand même un petit navigateur face à elle, c'est formidable. Et puis, d'année en année, son budget rétrécissait, donc le budget devenait de plus en plus petit. Et puis, à un moment donné, elle a dit « Bon, j'en ai marre d'attendre un budget qui ne vient pas, donc j'ai acheté un bateau. » Alors, je lui ai demandé quelle taille mesure ce bateau. Alors, elle m'a dit 15 mètres, donc j'ai eu très très peur, parce que c'est quand même des mers terribles. Et donc, elle m'a dit « Est-ce que tu veux venir quand même ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, parce que c'est évidemment une légende, mais je mourrais de peur. » Donc, j'ai multiplié les check-up et puis les examens en suppliant les médecins de me trouver quelque chose, une bonne raison de ne pas venir. Et puis, ils m'ont rien trouvé, donc je suis parti. Et je suis parti 8 semaines avec elle sur son petit bateau. On était 6 et ça a été évidemment le plus beau voyage de ma vie. Et donc, vous savez, en bateau, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, ou on devient des amis pour la vie, ou alors on ne supporte plus. Et là, 8 semaines dans des conditions quand même assez compliquées, bateau à voile, hein, conditions un peu difficiles, on est devenu amis. Et alors, je pense que je lui ai apporté un petit peu quelque chose, enfin, dans le terme de l'écriture, lui donner plus confiance, et puis dans les domaines économiques. Et puis, elle m'a apporté énormément dans les sciences de la vie, dans le développement durable. On voit sa responsabilité maintenant à la tête de WWF France. Donc, elle m'a énormément appris. Donc, j'ai des moments très, très incroyables où notre amitié est née. On se retrouvait au milieu du passage du Drake, c'est-à-dire au sud du Cap Horn, entre le Cap Horn et puis la péninsule antarctique, dans des endroits quand même incroyables, je lui lisais des textes. Donc je lui lisais du Nicolas Bouvier, je lui lisais du Gilles Lapouge, et on était à la barre, tantôt elle, tantôt moi, et donc on avançait vers l'Antarctique. Et puis l'amitié est devenue de plus en plus forte il se trouve que son père est mort 2 jours après ma mère. Et donc j'adorais son père parce qu'on a j'ai eu la chance de naviguer un petit peu dans les îles anglo-normandes avec son père, et son père vraiment était quelqu'un qui avait le regard de sa fille, ou sa fille avait le regard de son père, et donc des liens extrêmement forts. Et j'ai l'impression que, vous savez, quand il y a une vraie amitié, on met la vie en commun. C'est-à-dire que grâce à elle, j'ai été plus navigateur, et j'ai mieux compris la vie, et peut-être grâce à moi, elle a osé écrire ce qu'elle fait maintenant magnifiquement.
C'est un beau témoignage, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'Éric fait un peu partie de la famille. On était au téléphone ensemble ce matin, vous voyez. Donc on se suit, et c'est vraiment quelqu'un. Il y a une belle confiance entre nous, et il y a une belle amitié. Et je crois que ça, c'est vraiment 2 mots très importants pour les relations entre les êtres. Et voilà. Et puis en plus, il est tellement joyeux, il a tellement cet appétit de la découverte, de comprendre ce qui se passe. Il m'a beaucoup apporté, c'est sûr.
Dans ce livre que vous avez co-signé au retour de ce grand voyage, ce livre qui s'intitule « Salut au Grand Sud », vous parlez de ce détroit du Drake que Éric Orsenna vient de mentionner. Et vous dites que c'est un des endroits qui les plus dangereux aujourd'hui.
Oui, c'est un sale coin parce qu'on est donc entre la pointe de l'Amérique du Sud et l'Antarctique. On est dans des eaux froides, on est dans des eaux où il y a pas mal de tempêtes, d'autant plus que les montagnes de la cordillère des Andes accélèrent le vent. On est dans des endroits où les fonds remontent, on est dans des endroits où il y a du courant. Donc, à chaque fois qu'on va là-bas, on le fait avec beaucoup de circonspection et voilà, et il n'y a pas de fausse honte même à dire j'y vais pas ou j'attends ou parce que ça reste oui un endroit un peu compliqué.
S'en fout la mort.
Non, au contraire. Et moi, je trouve ça très important de renoncer, de savoir renoncer parfois, de dire non, là, ça le fait pas. Les conditions sont pas réunies. Et moi, en tant que marin et surtout en tant que chef de bord, c'est mon métier de dire là, on peut y aller, là, on peut pas y aller. On va y aller comme ça ou autrement. C'est une belle responsabilité, mais c'est une lourde responsabilité. Il n'y a pas un moment où je pars, puisque je pars tous les ans faire des entre 2 et 3 mois de grands voyages comme ça dans ce genre de contrée, les nuits d'avant, forcément, je dors pas bien parce que je sais que il va falloir que mes décisions soient les bonnes.
Au cours de cette grande traversée, vous êtes arrivé dans une péninsule où un marin un siècle auparavant, qui s'appelait Charcot, avait failli mourir. Et vous écrivez ceci, Isabelle Autissier. Un siècle plus tard, un trio de tentes jaunes a remplacé le village. Une silhouette s'avance. À mesure qu'elle approche, le portrait se précise. 1, c'est une femme. 2, tout sourire est jeune. 3, un sosie de notre amie Poney Tail Girl de Palmer, la spécialiste du krill. Et dans les endroits les plus reculés du monde, il y a des jeunes femmes qui s'occupent du devenir de notre planète. Et ça, vraiment.
Et ben voilà, c'est encourageant.
Génial.
Voilà, c'est encourageant. Et c'était drôle. Oui, c'était donc des Américaines qui comptaient les manchots. Parce que il faut compter les manchots. Leur a l'air très important.
Mais oui.
Pour savoir où en sont les populations.
C'est formidable que vous l'ayez rencontré.
Voilà. Et c'est des gens extrêmement dévoués. Et surtout, ce sont toutes et tous, des amoureux absolus de ces contrées et de ces régions. Parce que c'est pas facile d'aller faire des missions pendant des semaines, d'habiter dans sa petite tente. C'est pas que les vacances, quoi. Hein. C'est quand même aussi très très exigeant comme métier.
Alors, Madame la Présidente de l'organisation WWF, je vous propose d'écouter un entretien de nos deux amis Nicolas Demeurand et Léa Salamé. C'était le 28 août 2018 dans leur studio. Ce matin-là, ils recevaient Nicolas Hulot. Écoutez.
Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Parce que moi, mes choix, toutes les contradictions de notre société, mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles, la vérité, elle est celle-là. Mmh. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non.
À la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, il y avait une information extrêmement grave, la disparition des insectes. Vous l'avez peut-être vu, Isabelle Autissier. Vous étiez le lundi 3 décembre dernier à Katowice, en Pologne, à l'occasion de la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP24. Que pouvez-vous dire aujourd'hui de cette prise de conscience écologique dont vous avez parlé en début d'émission? Et que pouvez-vous suggérer ou proposer?
Alors d'abord, j'entends toute la frustration de Nicolas Hulot et souvent je la partage. Peut-être que je me sens un peu moins seule parce que autour de moi il y a cette organisation du WWF qui est pleine de gens jeunes et pleins d'énergie et qui se bagarrent autant qu'ils peuvent, et puis que il y a beaucoup de citoyens qui nous rejoignent de plus en plus. Mais c'est vrai que là on est dans les années de basculement. On travaille pas pour les générations futures, ça c'est de la rigolade. On travaille même plus pour les enfants qui sont dans les écoles. On travaille pour nous, Laura Adler. Nous ne vieillirons pas comme nous vivons aujourd'hui. Les bouleversements vont à une vitesse incroyable. En quelques années, parfois quelques mois. On le sait tous. Oui, les insectes, 80% des insectes ont disparu en Europe. Pourquoi ? Essentiellement à cause des pesticides. Et on a aujourd'hui le président de la République qui nous dit « Oui, alors on avait dit que dans 3 ans on arrêterait, mais ça va être compliqué, alors on va voir comment on peut faire, etc. » Tant qu'on est dans ces atermoiements, tant qu'on est... voilà. Et je pense que, si on parle que de la France, les Français ne veulent plus de ces poisons. Parce que ce sont des poisons pour nous, les êtres humains, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc voilà, alors après, il faut évidemment... voler au secours des agriculteurs et les aider à construire autre chose. Il faut pas leur dire débrouillez-vous, on n'en veut plus. Alors voilà, alors qu'au contraire, on les a encouragés pendant des dizaines d'années à les utiliser. Donc bien sûr, il faut que l'État intervienne. Bien sûr, il faut changer l'agriculture. On change pas l'agriculture en claquant dans les mains. Donc bien sûr, il faut dérouler un objectif et faire une transition. Mais il est impératif d'avoir un objectif précis. Et tant qu'on se contente de dire « c'est pas terrible, on va voir ce qu'on peut faire », là on n'avance pas. Et là c'est grave. Et là c'est grave parce qu'effectivement, la disparition des insectes, l'article du Monde le dit très bien, les insectes c'est la nourriture de tous les autres animaux. S'il n'y a plus de vers de terre dans le sol est mort. Donc tout ça est quand même, c'est vrai, extrêmement grave. Voilà. Maintenant, ça ne suffit pas de dire ça. Maintenant, il faut se mettre au boulot. Il ne faut pas s'asseoir par terre et se mettre à pleurer. Ça, ça ne sert à rien. Et en plus, dans le combat, dans l'énergie collective, il y a un vrai plaisir et il y a un vrai bonheur. Donc saisissons ce bonheur-là, inventons le monde de demain plutôt que rabâcher celui d'hier. Et je pense que déjà, on y prendra beaucoup plus de plaisir. Et en plus, on ira vers la seule voie qui est possible pour nous. On n'a pas d'autre voie. On ne peut pas vivre, nous les êtres humains, sans insectes, sans animaux autour de nous et sans plantes autour de nous. C'est juste impossible.
Ben merci infiniment, Isabelle Autissier. Et puis, je crois qu'on peut annoncer la bonne nouvelle. Un nouveau livre.
Oui, pour le mois de mai, pour début mai. Donc, c'est chez Stock, j'allais dire comme d'habitude. Et ça va s'appeler « Oublier Clara ».
Ben merci infiniment. On va se quitter en écoutant Jean-Louis Murat.
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers. Je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres. Sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit. Je me souviens. Je me souviens d'un monde dans l'univers. Je me souviens de l'appel de la lumière. D'une dame en noir qui gifle le loup des mers. Je me souviens. Je me souviens par l'abri dans l'obscurité. Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne. Une digue, un pont, la bataille de Wagram. D'une milanaise et d'un qui vient à mourir, je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savants de main de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir. D'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens, 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 je me souviens.
Merci à toute l'équipe de l'Heure Bleue, à Jean-Baptiste Audibert, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Antoine Joubert, à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission.